1 Jean chapitre 4, on va lire les 8 premiers versets. Bien-aimés, n'ajoutez point foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je vais vous attirer une fois de plus au verset 1, d'éprouver les esprits. C'est un commandement de l'apôtre Jean de tester, d'éprouver les esprits. Par esprit, il signifie les personnes. Dokimazo, en grec, un terme qui est utilisé dans la métallurgie, qui assesse à la pureté du métal, c'est de tester les personnes. Peu importe s'ils sont humains ou angéliques, nous devons éprouver les esprits, les personnes. Nous sommes rappelés de faire cela en 1 Thessaloniens 5, versets 21 et 22. Ne pas négliger la prophétie, mais d'examiner. Et c'est le même mot qui est utilisé, de tester, d'éprouver ce que nous entendons. Et c'est critique. C'est critique parce que Satan existe. Et les démons existent. Et parce qu'ils opèrent dans un royaume de mensonges qui domine notre monde. Satan est le dieu de ce monde, le prince de l'air, le dirigeant de ce monde, et il a été, Dieu lui a donné permission de diriger ce monde pendant quelque temps, et il cherche comme un lion ce qui peut dévorer. Lui et ses agents sont déguisés en anges de lumière. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, leur a dit, ne soyez pas surpris que Satan opère en plus de 99% des temps dans des mauvaises religions, dans des fausses religions, dans des mensonges et des tromperies. Satan n'est pas toujours derrière les sociétés qui sont remplies de la corruption de la chair et du péché, parce que la chair humaine se charge de ça. Satan est derrière les fausses religions. Et lorsqu'on va en 2 Corinthiens chapitre 10, et on parle de la guerre spirituelle, de la bataille spirituelle, et souvent les gens ne comprennent pas exactement la réalité de cette bataille et pensent que nous devons chasser Satan et nous lever pour battre Satan. Et je me souviens visiter une église, il y avait un pasteur qui commence son message et il commence par prier et il commence par parler directement au diable, lui disant « Satan, nous te lions ». Il y a des personnes qui comprennent pas la réalité de la guerre spirituelle, c'est une délusion. La bataille spirituelle est décrite en 2 Corinthiens 10, verset 3. Ça dit que nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est la condition humaine. On est fait de chair, mais on ne peut pas combattre avec des armes faites de chair. Nous ne pouvons pas combattre avec des inventions humaines, peu importe nos désirs. Nous ne pouvons pas combattre avec des armes humaines. On a besoin davantage de ça. Il faut des armes qui ont été fortifiées divinement. Les armes humaines ne marchent pas, peu importe à quel point elles peuvent être nobles ou intelligemment façonnées, ça ne marche pas. La bataille, c'est comme on le voit au verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On parle de forteresses, de pierres qui sont imprenables. Le même mot pour forteresse peut être traduit comme tombe ou prison. On ne peut pas attaquer des forteresses comme ça avec des petites sarbacanes. Et au verset 5, il parle que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous renversons les raisonnements, les spéculations. Le mot en grec, c'est les points de vue, les idéologies, les philosophies, les religions. C'est ça les raisonnements. C'est ce que les chrétiens font dans la guerre spirituelle. C'est une bataille pour la pensée. Ce n'est pas de courir après Satan, de courir après les démons. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas la capacité de faire cela. Notre bataille est une bataille pour la pensée. Pourquoi? Parce que le monde est prisonnier de systèmes de croyances. Et ils pensent qu'ils sont imprenables dans leur idéologie et tout ça devient des prisons pour eux, des tombes. Et l'architecte de toutes ces fortifications n'est rien d'autre que Satan. C'est le père des mensonges, c'est le grand trompeur, l'ultime ange de lumière. Et il œuvre par des systèmes de fausses croyances. Ils sont même définis au verset 5. Ils sont décrits comme toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est des pensées qui ont l'air grandes, qui ont l'air intelligentes, qui s'élèvent, mais qui s'élèvent contre Dieu, contre la connaissance de Dieu. Les gens sont fortifiés, sont enfermés dans des systèmes qui sont contre Dieu. Ils sont anti-Dieu. Dans le langage de Jean, ils sont antéchrist. Les gens sont enfermés dans des fortifications et ils sont dans des tombes. Et quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est de briser ces idéologies, de briser ces fortifications et de prendre chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est une bataille pour une manière de penser. Et Satan, encore une fois, c'est l'architecte, c'est lui qui construit ces idéologies. Et les gens, ils sont prisonniers. Prisonniers jusque dans l'éternité, dans l'enfer. Et pourtant, ça semble tellement beau parce que c'est opéré par l'ange de lumière. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient avertis des faux prophètes. Dans le Nouveau Testament, les gens sont avertis, une fois de plus, contre les faux prophètes. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus avertit contre les faux prophètes, en Matthieu 7. Paul avertit encore et encore contre les faux prophètes. Pierre écrit une lettre entière en 2 Pierre pour avertir les gens contre les faux docteurs, les faux prophètes. Et Jude fait la même chose. Et la lettre de Jude est presque la même que de Pierre, que le Saint-Esprit lui a donné, simplement des verbes différents. Et avant que le livre de l'Apocalypse finisse, le dernier message du Nouveau Testament, 5 fois, même dans 2 Jean, et 3 fois dans 3 Jean, les derniers mots que Jean écrit avant l'Apocalypse est un avertissement de continuer à être fidèle à la vérité. On trouve le mot vérité, 5 fois dans ces épîtres au début. Et l'avertissement pour les gens du 1er siècle, c'était de vivre pour la vérité. Et Jude ajoute qu'il faut aussi combattre pour la vérité. C'est le combat pour la vérité. Et j'ai même écrit un livre sur le sujet. C'est la guerre spirituelle, combat spirituel. Et une des manières de combattre, c'est de tester, d'éprouver les esprits. On ne peut pas voyager aveuglément, ajouter tout ce qui se passe autour de nous et affirmer ce qui se passe. Nous devons éprouver les esprits. Ce passage nous donne les principes qu'il faut regarder pour faire cela. Lorsque le grand réveil des années 1750 se passa, il y avait beaucoup de questions sur la légitimité de ce grand réveil. Était-ce vraiment le travail du Saint-Esprit ou pas? Et Jonathan Edwards confirma ce réveil sur la base de ce même texte. Et hier, Steve Lawson a ressuscité des morts Jean Calvin, et aujourd'hui, moi, je ressuscite Jonathan Edwards. Et il a écrit la marque qui distingue clairement le travail du Saint-Esprit. C'était son livre qui a été publié en 1751. Dit ce passage est fondateur pour affirmer quoi que ce soit du travail de l'esprit. Ces thèses ont une portée au-delà du temps. Et des thèses pour mesurer les mouvements des prédicateurs et les personnes et les esprits. Ce qui est vraiment de l'esprit se conforme à ces choses. C'est merveilleux que Dieu nous a donné cela. Et toutes ces lignes d'examination convergent dans ces lignes. C'est quelque chose que chaque pasteur, chaque chrétien, chaque croyant doit utiliser pour examiner. Comme les gens de Béret, d'examiner pour voir ce qui est vraiment vrai. C'est quoi la question? La question, c'est quelle est l'œuvre de l'esprit? Et on revient au chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, en nous. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. L'assurance de notre appartenance à Dieu, c'est à cause de l'esprit. Notre confiance et l'affirmation de la réalité de notre salut est basée sur le travail, l'œuvre de l'esprit. Je sais que l'esprit est invisible et que l'esprit travaille de manière supernaturelle, souvent de manière qui ne peut pas être perçue. Mais cependant, alors que son œuvre est invisible, les résultats sont visibles. Et alors qu'on ne peut pas expérimenter ou se ressentir nécessairement l'œuvre de l'esprit, les résultats sont évidents. Une des folies du mouvement charismatique, c'est de dire que le Saint-Esprit me dirige. Mais comment savoir si cela est vraiment le Saint-Esprit? j'ai pas de bouton rouge qui s'allume sur mon front et qui me dit « Ah, mais c'est vraiment l'esprit ». J'ai pas de mécanisme en moi qui peut me dire « Ah, ça, c'est vraiment l'esprit, c'est vraiment divin ». Tout ce que je sais, c'est que je peux expérimenter les résultats de l'esprit qui bouge en moi. Et je me souviens, quand j'ai été sauvé, j'avais une haine pour le péché et j'étais indifférent aux philosophies du monde. Et j'étudiais à l'université les philosophies occidentales et j'étais la personne la plus désintéressée que vous pouviez trouver sur ces philosophies, parce que tout ce que je voulais savoir, c'était connaître la parole de Dieu. Je ne voyais pas l'Esprit de Dieu. Je ne voyais pas nécessairement l'Esprit de Dieu travailler en moi pour ses désirs, mais je pouvais voir les résultats. Je peux tolérer les gens qui sont perdus à Dieu, mais les gens de l'Église qui appartiennent à Dieu, je les aime. Et même, je sais, il y en a beaucoup, vous tous qui êtes ici, non seulement vous appartenez à Dieu, mais je sens que vous m'appartenez à moi dans le sens que je vous aime. Et ça, c'est l'évidence pour moi du travail invisible de l'Esprit qui me donne un amour profond pour le peuple de Dieu. Et nous savons que Christ demeure en nous parce que nous connaissons l'Esprit qu'il nous a donné, qui est manifeste en nous. Comment savoir si vous êtes un croyant? Ce n'est pas nécessairement votre perfection, mais votre direction. Vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous devez faire. Et en Romains 7, on sait qu'on fait des choses souvent qu'on ne veut pas faire, et on ne fait pas ce qu'on voudrait faire, mais on est convaincu de ça, et on sait que c'est l'œuvre de l'Esprit qui travaille en nous. Et en Jean 3, on voit le vent souffle là où il veut, et on ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais on peut voir son effet. C'est la même illustration qu'on voit en Jean chapitre 3. Son œuvre est invisible, mais les résultats sont visibles. Et à cause de ces résultats, nous pouvons savoir avec conviction que l'Esprit travaille en nous. Qu'est-ce qu'il fait en nous? Il produit en nous un désir pour la repentance, une haine pour le péché. Il produit en nous un désir de chercher le salut, le pardon, la croyance dans l'Évangile, un amour pour le Seigneur Jésus, un désir de vouloir devenir un esclave de Jésus et de le reconnaître comme sauveur. Il donne en nous un amour pour l'Écriture et pour l'obéissance. Il donne de la joie même dans la souffrance. Un amour pour les autres chrétiens, un désir pour la communion, une compréhension des Écritures, une inclination pour la prière et un désir d'aimer Dieu et de le louer, un désir de vouloir devenir plus comme Christ. Et ça, c'est vraiment encourageant, tout ce que l'Esprit fait. Et c'est ce que je disais avant, c'est ce que l'Esprit fait en vous, peu importe que vous aimiez ça ou pas. Mais il y a d'autres esprits. Et c'est très surprenant. Je pense que c'est très, très surprenant que on voit soudainement un changement du chapitre 3 qui parle de la gloire de Dieu. La réalité glorieuse de Christ et du travail de l'Esprit, chapitre 3. Et puis tout à coup, chapitre 4, du danger mortel des esprits impurs, d'esprits qui ne sont pas de Dieu, les antigodes, les antéchristes. Ce n'est pas tout à fait surprenant parce que on a été averti par le Saint-Esprit, même depuis le Nouveau Testament, jusqu'à la fin, que les tentations et les attaques de Satan étaient là depuis le début, même dans le jardin d'Éden. Son œuvre est toujours actuelle et Dieu nous a toujours avertis d'avoir du discernement et de savoir comment et de faire face à cette réalité du combat spirituel. La réalité de la vie croyante a toujours été de combattre pour la vérité les faux esprits. C'est une ironie très étrange, je pense. Je trouve que dans le mouvement charismatique, si vous les critiquez, si vous essayez d'être vigilant et d'avoir du discernement, si vous essayez de lutter pour la vérité, de les tenir redevables aux Écritures et de les exposer pour leurs erreurs, ils vous condamnent. En tant que pécheur, ils vous condamnent comme la personne qui est un obstacle à l'unité de l'Église. Comment je sais ça? Je l'ai vécu. Pour eux, d'avoir succès, ils doivent changer le discernement en péché, en une transgression contre Christ. Dans sa prière sacerdotale, en Jean 17. Et on sait que pour que le mouvement charismatique survive, ils doivent attaquer les amis de Dieu. Parce que si la doctrine saine règne, ils ne peuvent survivre. Le mouvement évangélique a été intimidé dans le silence. Et je cherchais un livre qui avait été publié ces 15 dernières années, qui exposait les problèmes du mouvement charismatique. Et ils ont été très très bons, en quelque sorte, à empêcher la vérité d'être exposée sur leur mouvement. Mais on est appelé dans Jean de montrer les esprits et de montrer si ces choses viennent de Dieu ou pas. Et on est instruit ici, bien-aimés, ne croyez pas à toute personne. Pourquoi? Parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça devrait être assez de vous convaincre de l'erreur de ce mouvement lorsqu'on sait qu'ils ne veulent pas être examinés. Si c'était vraiment une œuvre de l'esprit qui était en rapport avec la parole, ils inviteraient la critique, ils inviteraient les gens qui éprouveraient leur esprit parce qu'ils voudraient l'affirmation qui vient avec l'œuvre de l'esprit. Quels sont les tests? Je vous en donnais un, et j'en ai beaucoup, mais je ne sais pas si j'ai le temps de tous les donner. Si je ne vous les donne pas, ils sont dans le livre que je viens d'écrire. J'ai demandé à Travis si je pouvais avoir 3 heures aujourd'hui. Il m'a dit que c'était pas possible. Ok. Le premier test. La vraie œuvre de l'esprit, le travail de l'esprit exalte le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 2. Par ceci, vous connaissez l'esprit de Christ. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Le premier test christologique concerne la personne de Jésus. Chaque esprit qui confesse le nom de Christ et de Dieu, c'est positif. Et tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ n'est pas de Dieu. Et tout commence avec une christologie qui est claire, qui est vraie, une compréhension qui est véritable de l'incarnation de Jésus, que Jésus est Dieu fait chair, et que tout cela est compris de manière biblique. Qu'est-ce que Jean écrit de manière spécifique dans ce passage? Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui renient l'incarnation? Il y avait un mouvement dans l'Église qui s'appelle le docétisme et qui décrivait que tout ce qui est matériel est mauvais, tout ce qui est esprit est bon, et ainsi ils affirmaient que Jésus-Christ ne pouvait être matériel, parce que dans ce dualisme, le monde matériel ne pouvait pas être bon. Ainsi Jésus avait apparu dans la chair, mais n'était pas vraiment dans la chair. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Oh oui, ça a une grande importance. Parce que si Jésus doit être le substitut qui doit mourir à notre place, alors il doit être un homme. Si vos péchés doivent lui être imputés, alors il doit être un homme. De plus, si sa vie, sa justice doit nous être accréditée, alors il devait être un homme. Son humanité a une grande importance. Bien sûr, c'est pas une christologie complète qui est articulée ici, mais une vérité évidente, c'est que la christologie commence avec le fait que Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. C'est en 451, au conseil de Chalcédoine, que la croyance du monophysisme fut déclarée hérétique. Ce fut un grand débat. Et sur les deux natures de Jésus, et la conclusion, c'est que les deux natures étaient en Christ, mais sans être mélangées. Et bien sûr, tous les tests de la christologie de Christ ne sont pas dans ce texte, mais le premier test ici, c'est que Christ, une fois de plus, est pleinement Dieu, pleinement homme. Et toute fausse religion a une mauvaise christologie. Les Mormons croient que Jésus est le frère de Lucifer, créé par Dieu, qui lui-même était un être créé. Toutes les sectes ont une vue aberrante de Christ, mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une bonne vue de Christ, qui montre véritablement la gloire du Fils. Et tout prédicateur rempli du Saint-Esprit sera dominé de la personne de Christ et le présentera de manière juste, véritable, et qui l'exalte. Non seulement c'est une question de sainte doctrine, mais de prééminence et de la clarité de l'évangile. Si vous voyez une faille dans la nature de Christ, ou la prééminence de Christ, ou dans la manière dont il est présenté, ou dans son évangile, ce ne peut pas être l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit en Jean 14, 15 et 16, lorsque l'Esprit vient, il va vous montrer. Il va vous montrer, il va vous pointer à moi. Il va vous dire, il va vous parler de la vérité en ce qui me concerne. Tous ceux qui sont faux ou qui diminuent Christ ou qui polluent l'Évangile ou qui distraient loin de Christ pour l'esprit ou quelque excuse ne peuvent être remplis de l'esprit. Jonathan Edwards a dit le diable est la chose la plus anti-Christ. Il ne peut pas avoir de pensée pour Christ. C'est la personne avec le plus d'amertume contre Christ. Il veut le présenter de mauvaise manière. Il veut que l'attention soit attirée loin de Christ. C'est l'œuvre de Satan. Et l'œuvre, la vraie œuvre de l'esprit, c'est d'exalter Christ et non pas d'avoir une fausse image de Christ et de tromper les gens pensant qu'ils adorent Christ et qu'ils l'élèvent alors que vraiment ils sont trompés et ne le font pas. Si le mouvement charismatique était dirigé dans le mouvement charismatique, la gloire de Christ prévaudrait et serait prééminent dans le mouvement charismatique et tous ceux qui en font partie seraient en obéissance et en adoration à Christ et les gens seraient humbles, ils seraient joyeux, ils seraient pleins de sacrifices, pleins de confessions de leurs péchés, ils déclaraient Jésus-Christ comme Seigneur et en s'identifiant en tant que ses serviteurs, ses esclaves, voulant le suivre, peu importe là où il va. Et il y a un livre par Jack Hafford qui décrit que la distinction du mouvement charismatique, c'est la prééminence du Saint-Esprit. Ils disent une chose est seule pour tous, c'est la passion pour expérimenter le Saint-Esprit dans sa présence et dans sa puissance. C'est ce qui unit les charismatiques. Mais lorsque le Saint-Esprit est la personne recherchée, ça veut dire que son œuvre a été repoussée parce que Christ n'est pas apprécié. Et c'est une excuse. Ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit qui pointe vers Christ, qui montre Christ. Et en Philippiens 3, Paul écrit, je m'agenouille devant Dieu, je m'agenouille devant Dieu pour que je puisse être fortifié en moi par l'Esprit. Et il prie au Père, priant que l'Esprit puisse le fortifier pour que, il dit dans sa prière, pour que Christ puisse abonder dans nos cœurs, pour qu'on puisse comprendre la profondeur et la grandeur et de connaître l'amour de Christ qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Et à celui qui peut faire bien plus que tout ce qu'on imagine en pensant, à lui soit la gloire et l'honneur dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et ce n'était pas Philippiens 3, mais Éphésiens 3. Et le travail du Saint-Esprit est toujours de montrer Christ. Montrer Christ. Et les charismatiques ont créé une image fausse de Dieu au travers de cette distraction de la centralité du Saint-Esprit. Montre-moi quelqu'un qui est centré sur Christ, qui est presque obsédé de Christ, qui veut voir Christ, qui cherche sa gloire et qui veut être comme lui. Et je vais vous montrer quelqu'un qui est vraiment rempli de l'Esprit, quelqu'un qui recherche Christ de tout son cœur. Ça, c'est quelqu'un rempli de l'Esprit. Et tristement, le mouvement est souvent antéchrist. Les histoires de Christ dans le mouvement charismatique sont souvent terrifiantes. Certains prétendent avoir vu Dieu habillé comme un pompier. D'autres l'ont vu étant 300 mètres de haut. D'autres personnes revendiquent le voir régulièrement aux toilettes avec eux. D'autres sur des poubelles. D'autres assis sur une chaise roulante, dans un centre de convalescence, d'autres prétendent marcher avec lui au bord de la plage, etc., etc. Un des leaders charismatiques a dit après une révélation du Saint-Esprit, Jésus est venu et je me suis assis dans l'herbe et j'ai demandé à Jésus, est-ce que tu peux t'asseoir à côté de moi, t'allonger dans l'herbe avec moi? Et Jésus et moi, on se regardait les yeux dans les yeux et le Père est venu s'asseoir à côté de nous. C'est des fantaisies émotionnelles qui n'ont vraiment rien à voir avec Jésus et le Saint-Esprit. Ce sont des tromperies, des délusions, des mensonges, mais qui ne trouvent pas leur source dans le Saint-Esprit. Ce ne sont pas simplement des images bizarres. Lorsqu'on voit des livres qu'ils ont des évidences ou qui s'est articulé une certaine vue de Jésus. Et j'ai entendu l'histoire d'un garçon de 4 ans qui était dans un de leurs livres, décrivant le ciel comme il l'avait vu. Mais lorsqu'on se penche à la Bible, on voit Jésus-Christ qui vient en tant que Dieu. Et pourtant, dans un de leurs livres, il parle de Christ qui vient et qui ne prétendant pas être Dieu dans certains de leurs mouvements. Et une de leurs citations, c'est et Jésus qui dit sur la croix, mon Dieu, et ils affirment, pourquoi est-ce que Jésus dirait même mon Dieu, alors que Dieu n'était même plus son Père une fois qu'il mourut sur la croix. Et alors que Satan avait Jésus sur la croix, et Jésus et Satan pensaient avoir vaincu. Et on va continuer. Une autre excuse qui parle, il parle de Christ comme venu sur la terre n'étant pas parfait, mais vivant vers cette perfection. Et on voit dans la Bible que Jésus se reposa plusieurs fois dans la Bible, alors que la Bible dit que Jésus ne se repose pas. Et donc il donne ce message que Jésus ne peut pas être Dieu, parce que Dieu ne se repose pas. Certains de leurs leaders. Et pourtant, ils se positionnent eux-mêmes comme s'ils étaient des dieux. Kenneth Copeland, leur grand leader, prétend être parlé par Jésus, disant, et il parle comme s'il était Jésus, ne soyez pas triste si on vous accuse d'être comme Dieu. On m'a crucifié parce que il pensait que je réclame être Dieu, alors que je n'ai jamais prétendu être Dieu. J'ai juste prétendu marcher avec lui et qu'il était avec moi. Alléluia, c'est tout ce que je veux que vous soyez, que vous douiez, que vous fassiez. Mais où sont les charismatiques qui croient en Jésus et qui confrontent, et qui reprennent ces personnes de leur mouvement, qui dirigent le mouvement? Et avec ces enseignements qui sont pas bibliques. Et bien sûr, il y a plus que des hérésies, des choses insensées, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises représentations de l'Évangile. On sait pourquoi le Saint-Esprit est venu, pour convaincre les gens de péché, de jugement, de justice. Il est venu pour rendre témoignage de Christ. Il est venu pour inhabiliter les gens, leur donne la force pour pouvoir prêcher l'Évangile. On connaît l'œuvre de l'Esprit. Et l'Esprit est fidèle à l'Évangile, ne voudrait jamais donner une mauvaise représentation de l'Église et de Christ. Et lorsque ces choses ne sont pas visibles, ces choses ne peuvent pas être le mouvement de l'Esprit. Et lorsqu'on voit tous les rapports que le mouvement charismatique a avec l'Église catholique romaine, on ne peut pas affirmer, qui sont vraiment dirigés de l'esprit, aucun mouvement qui affirme l'Église catholique ne peut être dirigé par l'esprit. C'est basé sur une expérience commune, mais qui est fausse, une mauvaise forme de l'évangile. Et ainsi, les réveils charismatiques catholiques sont embrasés et affirmés par d'autres mouvements qui se disent évangéliques, mais qui en ont perdu la force. Les mouvements charismatiques catholiques commençant en 1967, il fut affirmé par Jean-Paul II et a grandi rapidement dans l'Église. Parce que c'est ce qu'on voit dans l'Église catholique. Ils veulent accueillir tous ceux qui veulent revenir. Ils absorbent les hérétiques, ils absorbent maintenant les homosexuels pour construire leur système, parce que ce système a un seul roi, et ce roi est le roi des ténèbres. En l'an 2000, il y avait 120 millions de catholiques charismatiques. Il y a plus de 500 millions de charismatiques dans le monde. Et 1 sur 5 est catholique. Et les charismatiques catholiques tiennent à la doctrine catholique, qui ne croient pas que les hommes sont justifiés par la foi seule, les croyants, mais aussi par les œuvres. Ils croient dans l'ex opere operato, les 7 sacrements de l'Église. Ils sont soumis à l'idolâtrie de la masse catholique, de la messe catholique. Ils vénèrent de manière comme idole Marie. Et pourtant, ils ont été accueillis avec joie par les charismatiques protestants pentecôtistes. Et c'est vraiment triste que récemment, alors que je prêchais sur Ésaïe 53, des étudiants de l'école de Moody écrivaient qu'ils étaient contents du nouveau pape. Pourquoi est-ce que les gens feraient ça? Pourquoi les chrétiens évangéliques protestants feraient ça? Faire une concession pour les catholiques? Mais c'est la fabrique contemporaine de l'évangélisme de nos jours. Il y a un rapport qui dit que 10 000 charismatiques dansaient et chantaient et pour un grand rassemblement économique, et alors qu'une grande partie de ce groupe était catholique. Vincent Sinon affirmait que le Saint-Esprit veut briser les murs entre les catholiques et les protestants. Mais si ce mouvement peut briser les murs avec les catholiques, s'unir à eux, ça ne peut pas être une œuvre du Saint-Esprit. La doctrine catholique est corrompue, est un faux évangile. L'esprit derrière le réveil charismatique catholique n'est pas le Saint-Esprit. Et dans le monde, il y a 24 millions de pentecôtistes charismatiques qui font partie d'un groupe qui s'appelle les Pentecôtistes Unis, Oneness Pentecostals, qui renie la Trinité. Et il y en a 24 millions. Un sur quatre aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils croient ? Il croit dans quelque chose qui s'appelle le modalisme, qui est un Dieu qui apparaît dans 3 différents modes. Des fois, il est le Père, des fois, il est le Fils, des fois, il est l'Esprit. Mais il n'est jamais tous les 3 en même temps. Il a ces 3 modes dans lesquels il peut apparaître. C'est un peu difficile à comprendre ça lors du baptême de Christ. Ça nous fait changer d'avis très rapidement lorsqu'on s'applique aux Écritures. Mais même dans le créneau d'Athanase, ça avait été conclu par les chrétiens que Dieu est fait de trois personnes qui coexistent, qui sont égales. Et ce mouvement attaque la nature de Dieu et coupe les gens de la possibilité du salut. Peut-être celui que vous connaissez de ce mouvement est T.D. Jakes, qui renie la Trinité. Et si vous n'avez pas le vrai Dieu, vous n'avez pas le vrai Christ, vous n'avez pas le vrai Esprit. Les modalistes disent que Dieu est fait de trois noms, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui apparaît à des temps différents. Et ce sont des modes. Et donc, Dieu peut être appelé le Père, le législateur, il peut être appelé le Fils, comme Dieu incarné, ou il peut être appelé le Saint-Esprit, le Dieu de l'âge de l'Église. Ainsi, Jésus est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas distincts. Dans le Conseil de Nicée, de Constantinople, le modalisme a été jugé hérétique. Et pourtant, la plus grande église, si on peut l'appeler l'église, aux États-Unis, est dirigée par Joel Osteen. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est superficiel. C'est une église qui embrase l'universalisme de bien des manières, qui est vraiment en aucun rapport avec tellement de choses des Écritures. Et on lui avait demandé à Joel Osteen la réponse, que pensez-vous des gens qui refusent d'accepter Jésus-Christ? Et il a dit, je sais pas, je pense qu'ils ont tort, mais je pense que la Bible dit que qu'ils doivent croire, mais de notre côté, je ne peux pas juger le cœur de quelqu'un. J'ai passé beaucoup de temps en Inde avec mon père. Je connais pas leur religion, mais je sais qu'ils aiment Dieu. Je sais pas. J'ai vu leur sincérité. Je sais pas. Je sais pour moi. Hein, la Bible enseigne que je dois avoir une relation avec Jésus. Une autre fois, on lui avait demandé si les mormons étaient des chrétiens réels. Et il a dit, oui, je pense qu'ils le sont. Mitt Romney a dit qu'il croit que Christ est son sauveur, et c'est ce que je crois. Je ne vais pas juger les petits détails, alors je vais le croire. Est-ce que vous comprenez l'impact que cette personne a? C'est massif! C'est l'universalisme. Les Mormons revendiquent les mêmes expériences des charismatiques lorsque leur temple Kirtland en 1836 fut inauguré. Joseph Smith reporta que un phénomène charismatique apparu avec du parler en langue, des prophéties et des visions miraculeuses. D'autres témoins visuels affirment qu'ils virent la même chose, du parler en langue, des visions, et que des centaines d'anciens de cette église parlaient en langue. C'était plus de 50 ans avant que Charles Parian commence le mouvement pentecôtiste qui pratique les mêmes choses. Et pourtant, lorsqu'on voit les Mormons, c'est vraiment l'œuvre de Lucifer et pas de Dieu. Une autre distorsion qu'on voit, c'est dans le mouvement de la parole de foi et du mouvement de la prospérité. ce mouvement de la prospérité et l'identité du charismatique, alors que c'est une aberrance. 90% des charismatiques tiennent au mouvement de la prospérité. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement grandit, parce qu'il ment et garantit le succès, la santé, et la richesse. Et ça attire les pauvres. Ça fait proie aux pauvres. L'évangile de la prospérité n'a aucun intérêt dans le vrai évangile. C'est seulement financier, pour le bien-être. Pour des gens désespérés, c'est un confort charnel, un succès mondain. Pour des millions de gens qui sont prêts à donner le peu qu'ils ont pour l'acheter. C'est une chose vraiment laide de s'attaquer aux pauvres en leur mentant pour s'enrichir en retour, en attribuant une fausse œuvre au Saint-Esprit et l'associant à Jésus-Christ. Les gens qui sont derrière ce mouvement sont coupables de vendre un faux évangile. Les gens de la prospérité, l'évangile de la prospérité, ont fait une moquerie de l'évangile, du christianisme. Un de leurs dirigeants a dit « L'évangile de la prospérité, c'est une version chrétienne de la lutte professionnelle. » Vous savez, c'est faux, mais ça divertit. Et lorsqu'on regarde aux gens qui sont associés à ce mouvement, le Pentecôtisme uni, le charismatique catholique et le mouvement de la parole de foi, on ajoute des millions, des centaines de millions de gens qui sont perdus dans ce mouvement. Mais qu'est-ce que la vraie œuvre du Saint-Esprit ? Quelque chose qui exalte Christ, sa personne, son œuvre, son évangile. Et lorsque vous allez recevoir le livre que je vais vous donner, vous allez pouvoir lire davantage tous les détails de ce qui décrit les heures de ce mouvement. Je vais vous décrire rapidement le deuxième point. On revient à versets 4 et 5. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. » Vous savez pourquoi ce mouvement grandit? Parce qu'il offre aux gens du monde ce qu'ils veulent déjà. C'est mondain. Ils offrent ce que les cœurs qui ne sont pas régénérés désirent. La santé et le succès financier, des sentiments émotionnels qui leur font sentir bien. Ils essaient d'élever les gens dans une musique et des chants répétitifs qui vraiment donne le même effet que lorsque les gens sont sous. Ça donne un esprit de libération, une délivrance, d'expérience extasique, d'extase. Mais ce sont des choses du monde. Ils parlent comme venant du monde et le monde les écoute. Et ça, c'est la raison pour laquelle le mouvement grandit. Ce sont des hommes mondains qui parlent de choses mondaines à des hommes mondains. Il n'y a rien de l'évangile dans ces choses. Mais Jésus nous dit, nous avons vaincu le monde. Ils n'ont pas entendu l'avertissement de Jésus. N'aimez pas le monde ou les choses du monde. Ces choses passent. Et Joel Osteen écrit « Votre meilleure vie aujourd'hui, maintenant ». Ça a l'air d'avoir bonne allure. Mais la réalité de ce message, c'est que la seule raison pour vous d'avoir votre meilleure vie maintenant, c'est si vous allez en enfer. Parce que si vous allez au ciel, ça ne peut pas être votre meilleure vie. Mais bien sûr, toute cette musique très émotionnelle porte ces fausses promesses de manière qui peut être sensuelle et une fois de plus qui plaît aux émotions, qui n'ont pas forcément un vrai engagement de l'âme. Ce que l'esprit fait, c'est qu'il amène l'humilité, un esprit brisé, un cœur brisé. Ça produit en nous le fruit de l'esprit. Sans le fruit de l'esprit, sans même la musique. Et l'attraction principale, c'est un désir charnel. Et vous savez comment les prédicateurs montrent leur esprit mondain et leur dit « Regardez-moi, regardez-moi. Ça s'est passé pour moi. Ça peut vous arriver aussi. » Neuf sur dix pentecôtistes vivent dans la pauvreté. Écoutez ça. 90% des charismatiques dans les Philippines, en Afrique du Sud, en Nigeria, sont enseignés qu'ils ne peuvent pas avoir de richesse parce qu'ils n'ont pas la foi. Quel mensonge! C'est encore pire, c'est encore plus immoral qu'un casino de Las Vegas. Parce qu'ils prennent votre argent par la tromperie. Au moins, dans les casinos, même s'ils sont dirigés par la mafia, les gens savent à quoi s'attendre. Mais dans le mouvement charismatique, c'est des gens qui prétendent travailler pour Dieu, alors que c'est une tromperie. Et souvent, je raconte l'histoire de la veuve qui a donné ses deux dernières centimes. Et ce n'est pas, souvent j'explique, ce n'est pas un exemple de vie sacrificielle. Lorsqu'on regarde aux enseignements pharisiens qui exploitaient les gens et leur amenaient un faux espoir qu'il fallait donner tout ce qu'elle avait pour pouvoir gagner leur salut, une exploitation. On voit ça dans le contexte de cette histoire. Il y a beaucoup de choses que je saute, que je n'ai pas le temps de lire, de bonnes choses que j'aimerais... Je saute l'histoire du prophète Sou dans mon bureau, mais vous pourriez lire cette histoire plus tard. Troisièmement, puis je vais m'arrêter. Le vrai travail, la vraie œuvre du Saint-Esprit dirige les gens vers la Bible. Au verset 6. Nous ne sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comment connaissons l'esprit de vérité? C'est celui qui coule de la Bible. Celui de l'erreur, c'est celui qui ne coule pas de la Bible. Écoutez cette citation de Peter Wagner. Les gens disent que Dieu ne communique pas directement aux gens. Directement, qu'il faut simplement la Bible. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que la Bible doit être faite de seulement 66 livres. Même le canon de l'écriture qui a été donné n'a pas été révélé des écritures. Et donc c'est une révélation extra-biblique. En conséquence, nous devons croire que Dieu continue à donner sa révélation. Notre professeur à Dallas, Jack Deere, dit, ça vient du séminaire théologique, la faculté théologique de Dallas, de dire que l'écriture est suffisante, c'est une doctrine démonique pour accomplir les dessein de Dieu pour notre vie, nous devons écouter sa voix. Satan comprend l'importance stratégique des chrétiens d'écouter la voix de Dieu et essayer d'attaquer ce domaine. Vous avez entendu ça? Satan, dans cette citation, est celui qui a attribué à convaincre les gens de lire la Bible et d'être fidèles à la Bible. De dire, selon cette personne, de dire que Dieu ne parle seulement par la Bible est démonique, démoniaque. Vraiment? Le test a failli, a manqué. Le dernier test, je le mentionne. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le vrai travail de l'esprit est manifesté dans l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu et l'amour envers le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit élève l'amour. C'est un amour qui se montre dans une adoration qui est pure et qui est sainte, et qui se montre envers les autres dans une vie humble, pleine de sacrifices, et un désir d'édifier, de servir les uns les autres. Et je finis avec cela. Dans le milieu charismatique, le centre est centré sur moi, pas sur toi. Les prières sont pour moi, pour que je puisse avoir ce que je veux. Lorsqu'on s'attache à ce faux système, on dit « je m'y attache pour que je puisse avoir ce que je veux ». Jonathan Edwards a écrit là-dessus. Il y a une fausse affection, un faux désir pour des gens de vouloir être dans des mouvements comme ça. Alors que les gens sont absorbés sur eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes, voulant expérimenter eux-mêmes, avoir ce que je veux, faire ce que je veux. C'est vraiment un matérialisme froid et égoïste qui est déguisé dans les vêtements de l'œuvre du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de faire des spéculations. Nous avons les tests. Il suffit de regarder aux tests pour mesurer le mouvement, d'avoir du discernement comme les gens de Béret. Et ça va être clair pour chacun de nous. Je vais finir en 2 Jean chapitre 7. Bien-aimé, ce n'est pas... 2 Jean chapitre 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarant pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de notre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car celui qui a dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est un avertissement pour toutes les réunions œcuméniques avec des gens qui ont une christologie aberrante. Père Céleste, nous te remercions que nous avons pu regarder à ces choses à la lumière des Écritures ce matin. Nous ne voulons pas nous sentir comme si nous sommes plus intelligents ou meilleurs que qui que ce soit. Nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la vie qui vient du ciel. Et nous vous donnons Nous te donnons toute la gloire et toute la louange. Merci pour ta grâce. Seigneur, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié. Mets fin à ce qui t'apporte des honneurs. Que la vérité pure puisse briller au travers, au-delà de ces mensonges et ces tromperies. Que Satan puisse être à nos pieds et que Christ puisse être élevé et attirant tous les hommes à lui, on prie en son nom. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.